Radio Galère, 88.4.
Chers auditeurs et auditrices, nous espérons que vous avez passé un bel été et sommes heureux de vous retrouver pour une émission spéciale Olympiade 2023, édition Patrick Barrault. Nous sommes aujourd'hui au sein de l'école de la Seconde Chance, dans le 15e arrondissement. Merci Madame Sission de nous recevoir.
On est très heureux de vous accueillir.
Merci à vous. Et nous vous remercions tous déjà autour de la table d'être présents avec nous. Donc tous, vous êtes nombreux. Je vais rapidement dire qui est présent avec nous et vous laisser prendre la parole et vous présenter brièvement. Donc sont présents avec nous aujourd'hui Monsieur Michael Sibillo, préfet délégué à l'égalité des chances, Madame Audrey Gassian, adjointe au maire de Marseille en charge de la politique de la ville et des mobilités, Monsieur Edi Ramadan, adjoint au maire délégué à la jeunesse, Monsieur Sébastien Djibrel, adjoint au maire délégué au sport, Madame Nadia Boulanceur, maire des 15e et 16e arrondissements, Clémence Gentot, directrice de l'agence Pôle emploi du 14e arrondissement, Monsieur Issem Benasseur, chargé de projet, et naturellement Madame Sission, qui est directrice de l'école de la Seconde Chance. À la mission locale de Marseille, c'était pour Monsieur Issem Benasseur. Donc l'émission d'aujourd'hui, c'est une émission spéciale Olympiade. Donc je vais peut-être laisser la parole à Monsieur le préfet délégué pour nous présenter les Olympiades qui ont lieu dans le cadre du projet Quartier d'été. Peut-être nous présenter rapidement Quartier d'été également.
Bien, merci. Merci à toutes et tous pour votre accueil. Alors, je découvre pour ma part, étant présent dans le département que depuis une dizaine de jours, cette dynamique vraiment très intéressante autour des quartiers d'été. Ce qui est frappant quand on arrive dans les Bouches-du-Rhône, c'est vraiment cette dynamique, cette énergie autour de la jeunesse, autour du sport, dans le cadre des politiques de la ville. D'ailleurs, nous avons les adjoints du maire de Marseille aux côtés de la maire d'arrondissement, des arrondissements sur ces thématiques, jeunesse, sport, politique de la ville, qui résume assez bien finalement cet esprit des quartiers d'été. Évidemment, l'État est à vos côtés. Alors vous m'interrogiez sur, de manière générale, sur les quartiers d'été. Ce qui est frappant à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, mais même en France, c'est qu'un jeune sur quatre ne peut pas partir en vacances. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est que si on ne peut pas partir en vacances, eh bien les vacances doivent venir à vous. Et c'est exactement, je crois, l'esprit qui est celui des quartiers d'été, des Olympiades, avec des activités sportives, culturelles, grâce au réseau associatif, grâce au réseau des délégués du préfet, grâce à la ville, aux collectivités, au département, à la région qui n'est pas là, mais qui est présente évidemment sur ces sujets, la métropole, ben, bref, toutes les collectivités, pour que ces activités puissent se tenir. Souvent d'ailleurs, dans les bas d'immeubles, il y a des activités sportives, culturelles. Je ne veux pas monopoliser la parole, on aura l'occasion de continuer à échanger là-dessus, mais c'est ça qui est frappant, c'est cette énergie, cette dynamique dont il faut se féliciter et évidemment pour lequel l'État sera toujours partie prenante à vos côtés pour l'encourager. Dernière chose, c'est que ces quartiers d'été, et en particulier les Olympiades, se généralisent. Hein, c'était dans le 14e arrondissement. Je crois sur la première édition, on est à la troisième édition. Ça s'est généralisé sur des quartiers nord, sur les quartiers sud. Eh bien, cette dynamique, il faut l'encourager, puisque si ça se généralise, c'est que c'est utile. Et on doit bien ça à notre jeunesse. Jeunesse est moins jeune, puisqu'il y a aussi ce volet intergénérationnel. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, donc je ne vais pas monopoliser la parole d'entrée de jeu. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'était ça que je voulais vous dire en propos introductif.
Donc, je vois qu'Eddy, vous êtes pris en prise du micro. Je vais vous laisser la parole aussi sur...
Je vous remercie, mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici à l'école de la Deuxième Chance, en tant que vice-président de cette école, mais aussi en tant qu'élu à la jeunesse, mais aussi en tant qu'élu du 15-16 délégué au sport auprès de Madame la maire du 15-16, Nadia Boulanceur. Moi, je suis ravi parce que les quartiers d'été, commence à prendre de l'ampleur et se maille avec le territoire, avec le bus de la jeunesse que nous avons créé à la ville de Marseille, où l'État travaille à nos côtés et finance à nos côtés via la préfecture à l'égalité des chances que vous représentez, monsieur le préfet, mais aussi via la BPI. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la ville de Marseille, grâce à l'implication des services et du maire de Marseille, Benoît Payan, s'est doté d'un bus totalement électrique qui va arriver d'ici quelques mois, qui aura une estrade, une sono, et vous parlez des pieds d'immeuble. En effet, ce bus-là a été créé pour aller au plus près de la jeunesse, au plus près de ses quartiers. Et dans l'ensemble de la ville, nous étions présents au Delta Festival, ensemble. Et c'était un événement qui a rassemblé beaucoup de la jeunesse marseillaise, mais pas que. La jeunesse marseillaise, elle est au nord, elle est au sud, elle est à l'est. Elle est partout, mais elle a besoin d'attention de la ville de Marseille, de l'État et des autres collectivités qui sont absentes aujourd'hui, mais présentes dans beaucoup des événements, dont l'école de la deuxième chance qui est financée bien sûr par la ville de Marseille, mais par les autres collectivités qui sont la région et le département. Et nous sommes ici sur un site qui appartient à la ville de Marseille, un site fabuleux qui est doté d'un stade, d'un gymnase, d'équipements assez extraordinaires, où les jeunes, comme on peut le voir de la fenêtre, s'épanouissent, sont contents d'être là. Ça a pu se faire grâce à l'aide de l'État et grâce à l'aide de la ville, puisque aujourd'hui, notre but, c'est de travailler tous main dans la main. Le bus de la jeunesse, nous l'avons fait ensemble et nous continuerons à travailler ensemble sur ces sujets-là parce que notre jeunesse en a bien besoin. Je vais terminer en pensant à cette jeunesse qui va bien, qui entreprend, mais aussi une jeunesse qui va mal et qui est sur laquelle il va falloir se pencher fortement. Même si c'est déjà le cas avec certaines actions, c'est pas suffisant parce que je peux pas m'empêcher de terminer sans penser à tous ces jeunes qui partent sous les cris des balles, à tous ces jeunes qui meurent, et je n'appellerai jamais ça un règlement de compte car ils ont parfois pas l'âge d'avoir des comptes en banque. Et donc ces jeunes-là, il va falloir faire en sorte, par des actions comme vous pouvez mener, par les actions que nous menons ensemble, faire en sorte qu'ils soient pas happés par les trafics. Et pour ça, nous devons tous travailler ensemble sur ces sujets-là. Je vous remercie.
Quelqu'un d'autre souhaite intervenir, puisque le principe de l'émission, c'est que c'est une table ronde. Ceux qui souhaitent intervenir le peuvent librement. Donc du coup, voilà, il y a un petit oiseau m'a dit que Sébastien devait partir, ouais, donc il a quelques mots à dire. Non, c'est pas ça, c'est juste lui laisser la parole.
Merci. C'est bon ?
Oui, c'est bon.
Bon, merci en tout cas de l'accueil. Monsieur le préfet, bienvenue à Marseille. Je pense que mes collègues Nadia Boulenser et Edi Ramdan nous ont dressé un petit peu le bilan et surtout la situation géographique de ce secteur. Je salue aussi Audrey Gassien, adjointe au maire, qui elle aussi est très impliquée dans la question de la mobilité. Et Nadia Boulenser a fait un très bon... Une belle présentation de l'état des lieux de ce qui se passe dans ces quartiers. On est dans des quartiers, il y a une ville qui a été divisée en deux, mais on ne va pas critiquer ceux qui étaient avant nous, mais depuis des nombreuses années. Et on a, comme dit Nadia, entassé des familles et des familles sans à côté leur donner la possibilité de faire du sport, d'aller à l'école dans des conditions décentes, d'avoir des équipements culturels où on peut passer un autre moment. Tout ça, ça n'existe pas. Et il y a eu un travail qui a été fait depuis des années, notamment par la mairie de secteur, qui était dans une mairie d'opposition, mais qui malgré tout a quand même sorti pas mal de bons projets. Je pense à l'école de musique, je parle de la culture, mais mais c'est important de le dire parce que ça a été le mot oxygène aussi. Et c'est des dispositifs volontaristes sur un budget. C'était un choix politique de cette mairie de secteur d'avoir permis aux habitants de ces quartiers de pouvoir profiter de sortir un petit peu de leur quartier. Alors tout à l'heure, vous avez dit un enfant sur quatre ne part pas en vacances. Nous, tout à l'heure, tu en parleras Audrey, mais on met des dispositifs avec la ville de Marseille et évidemment avec le soutien de l'État. Alors moi, je vais parler de la question sportive, notamment avec l'Agence nationale du sport avec qui on travaille, avec Edi Ramdan qui est adjoint au sport aussi. Et là, on essaye de voir de quelle manière on peut être accompagné du mieux possible. Alors là, cet été, on a permis sur l'ensemble des deux mois de juillet et août à 3500 enfants marseillais de tous les quartiers de la ville d'apprendre à nager gratuitement. On a ouvert des piscines, on a mis des bassins mobiles, notamment à l'Estac. On a permis aux enfants et aux familles de venir, c'est-à-dire on a un retard dans l'apprentissage de la nage, vous ne partez pas en vacances pour certains, eh bien on va mettre des piscines gratuites, on va mettre des gens qui vont vous accompagner, on va mettre des dispositifs. Et puis là, quartier d'été rentre là-dedans, dans cette politique volontariste aussi de l'État, d'aller dans les quartiers, d'aller chercher les jeunes, de saluer évidemment toutes ces associations qu'on voit depuis tout à l'heure, qui font un travail extraordinaire. Parce que si Marseille, ça n'explose pas, c'est aussi grâce à ces associations qui font un travail considérable. Je pense aux associations de solidarité, tout ce qui est banque alimentaire, qui aide les familles qui galèrent, etc. Administrative aussi, voilà, sur la question administrative, comme dit Nadia, ils sont là, ils sont à leur côté dans ces quartiers. Souvent, moi je le dis tranquillement, mais pas aidés comme il le faudrait, pas par l'État, mais par d'autres collectivités. Donc plutôt, on voit la région qui se désolidarise et qui tourne le dos aux associations de quartier. Mais si on n'a pas ces associations de quartier, on ne fait plus rien. Et moi, je parle sur la partie sportive, mais on peut parler de toutes les associations culturelles, des centres sociaux. On a un désengagement total de la région. Et après, derrière, on nous dit, mais faites en sorte que ces enfants sortent. Mais si les collectivités préfèrent mettre de l'argent dans un Grand Prix de Formule 1 ou mettre de l'argent ailleurs et que pendant ce temps, on laisse des enfants en bas des immeubles, Eddie l'a très bien dit, c'est difficile dans ces quartiers. On a le guetteur, on va au Grand Littoral, cette société de consommation où on passe, on a envie de se prendre une paire de baskets et on n'y arrive pas, et puis on descend, on tombe sur celui qu'il ne faut pas rencontrer, qui vous dit, je vous donne 80 balles par jour, et derrière, c'est un enchaînement. Nous, derrière, il n'y a pas de dispositif. Donc c'est pour ça qu'on se bat, pour essayer de les divertir, pour essayer de les amener à nous. Quand on rénove des stades, quand on rénove des gymnases, quand on rénove des équipements culturels, la médiathèque du Plan d'Ao, c'est qu'on veut les amener à nous pour pouvoir leur permettre à ces jeunes de ne pas basculer dans ce côté obscur qui est pour moi le pire. Même malgré tout, je pense que ceux qui basculent, ne basculent pas de manière volontaire. Ils basculent parce que c'est la situation qui veut ça. Et ce qui est triste aujourd'hui, et vous l'avez dit tous les deux, c'est tous ces morts qu'on voit aujourd'hui dans des quartiers. C'est des familles endeuillées, c'est des jeunes qui meurent pour pas grand-chose. Donc voilà, moi ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a une mairie qui travaille avec le soutien de l'État. Monsieur le préfet, on a bien travaillé avec M. Carrier. Je pense que vous êtes dans la même dynamique. Vous venez aujourd'hui et vous allez avoir du pain sur la planche, mais vous en êtes conscient. Nous, on a besoin de vous. Voilà, l'État est important. On a besoin de l'État sur pas mal de choses. Les associations, les codes de la deuxième chance, enfin, tout le monde a besoin de l'État. Et puis à côté, la mairie de Marseille sera un soutien de poids. En tout cas, voilà, saluer une fois de plus Eddy Ramdane qui a mené de main de maître ces Olympiades et qui fait un gros travail avec l'école de la deuxième chance. Et puis, saluer aussi Nadia Boulenser. C'est important de le dire, mais parce que c'est les élus qui sont engagés dans leur quartier, qui sont nés, qui y vivent et qui font en sorte de faire changer, de changer le quotidien des habitants de ces quartiers. Donc, remercier l'école de la deuxième chance et tous les représentants aussi de l'État qui se démènent. Et remercier cette belle radio aussi, cette belle émission. En tout cas, voilà, on est fiers d'être avec vous. Et le chemin a commencé il y a quelques temps et qui continue dans la même dynamique. Alors là, encore plus vite et plus loin pour les habitants de ces quartiers. Merci.
Merci beaucoup, Sébastien. Alors, un petit peu avant que tu prennes la parole, j'ai vu que Clémence a réagi. Donc, oui.
Oui, donc bonjour Clémence Gentot, je suis la directrice de l'agence Pôle emploi de Carré-Gabriel qui est dans le 14e arrondissement. Je suis ravie d'être parmi vous et partage un certain nombre de constats. Alors, je vais peut-être rebondir sur un des propos qui était la proximité des institutions avec les habitants, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai sujet hein, de travailler sur cette proximité-là et qui fait que je pense que et la mission locale et Pôle emploi sommes présents aujourd'hui sur les Olympiades. Parce que c'est vrai quand on regarde par la fenêtre il y a quand même beaucoup de petits enfants et on pourrait se demander qu'est-ce qu'on fait là et pour autant il y a un public plus jeune sur lequel c'est déjà une manière de travailler sur la représentation des institutions, c'est déjà une manière différente de commencer à faire découvrir ce que c'est que des métiers. Pôle emploi est venu aujourd'hui par exemple avec des casques de réalité virtuelle finalement qui plaisent beaucoup aux enfants et qui plaisent beaucoup aux jeunes et qui commencent finalement à travailler aussi à la culturation de ce qui va les attendre demain. Les territoires nord, c'est effectivement des territoires très riches en termes d'institutions, de partenaires. Les institutions, elles ont vraiment vocation, en tout cas en ce qui concerne l'agence que je représente, à être un maximum ouvert aux habitants. On travaille beaucoup avec les centres sociaux et on essaye de plus en plus quand même de mettre en place des dispositifs qui répondent à la jeunesse. Il y a beaucoup de talents dans ces quartiers, et vous le savez. Et Pôle emploi essaye de beaucoup travailler sur des manières de recruter un petit peu différentes pour justement faire émerger ces talents et non pas travailler sur du CV, de l'expérience, etc., mais plutôt de permettre aux candidats de se révéler. On a toute une batterie d'ateliers de détection de potentiel potentiel, etc. Le sport, il est fondamental là-dedans. L'immersion par le sport, c'est quelque chose sur lequel nous, on est convaincus, en tout cas Pôle emploi, et je pense que vous êtes tous convaincus autour de la table. Et on organise finalement de plus en plus d'événements sportifs qui ont un lien avec le recrutement et qui vont permettre finalement à des candidats de se révéler, à des candidats jeunes de se révéler sur des compétences qui sont très attendues. L'esprit d'équipe, plein de savoir-être en fait que l'on va retrouver, le fair-play, mais aussi l'engagement, la persévérance. Et voilà, c'était juste pour faire le lien aussi avec l'événement qui a lieu aujourd'hui, qui porte ces valeurs du sport et qui, je pense, sont des valeurs qui seront très importantes demain lorsque ils deviendront bientôt des candidats vers l'emploi. Voilà un petit peu ce que je voulais rebondir aujourd'hui.
Madame Gassion, oui.
Oui, je voulais en effet, déjà merci et bonjour à toutes et à tous. Je voulais un petit peu revenir sur ce qui a été dit. Alors bien sûr sur l'emploi et sur la place de l'emploi et l'importance que ça a, mais aussi sur ce que c'est que la politique de la ville. Parce que lorsqu'on parle politique de la ville, souvent on ne sait pas forcément ce que ça recouvre. Et la politique de la ville, c'est la politique en faveur de nos quartiers prioritaires, des quartiers populaires. À Marseille, il y en a 35. Ça concerne 27% de la population marseillaise. Et c'est aussi un soutien aux structures, alors bien sûr sportives, aux associations, aussi aux structures culturelles pour en fait faciliter le vivre ensemble et faciliter ce lien social dans nos quartiers. C'est quelque chose qui est excessivement important. Je voulais aussi préciser, parce qu'il y a pu avoir des rumeurs qui ont été propagées, qui sont quand même persistantes et il faut les mettre à plat sur le coût ou sur le montant des financements politiques de la ville. Il faut savoir que non, c'est pas vrai. Nos quartiers prioritaires, malheureusement, ne touchent pas plus d'argent public que les autres quartiers. On le sait que nationalement, et je sais que Madame Boulanger est attachée au fait que je rappelle ces chiffres, mais c'est très important de le faire, nationalement, en moyenne, c'est 6 100 € par an, par habitant, pour un habitant des quartiers populaires, et 6 800 € par an, par habitant, pour un habitant des quartiers en dehors des quartiers populaires. Donc on voit que la politique de la ville ne vient pas en plus. Souvent, des politiques publiques partent de ces quartiers-là et la politique de la ville vient compenser. Et donc c'est très important pour nous qu'on puisse avoir et le droit commun et la politique de la ville et que nos quartiers prioritaires soient vraiment considérés comme prioritaires. Sur la ville de Marseille, on a mis en place cet été 50 bus pour faire des sorties à la journée ailleurs dans la région, pour permettre aussi aux personnes qui ne partent pas en famille, avec des amis, de voir autre chose et d'élargir au final leurs horizons. C'est 4000 Marseillaises et Marseillais qui ont pu partir et qui vont continuer à pouvoir partir. Et alors vous allez sûrement nous dire, mais vous ne faites que des bus à Marseille. Mais en fait, on a un vrai problème de mobilité. Et Madame Boulanger l'a aussi dit, on a un problème de mobilité dans cette ville. On doit recoudre la ville. On a des quartiers qui ne sont plus desservis. C'est aussi pour ça que Eddy Ramdan a fait le bus de l'entrepreneuriat. C'est pour aller au plus près des personnes, parce que ce problème de mobilité est vraiment structurel. On a besoin de l'État. On a eu un plan Marseille en grand. Il faut aller plus loin et plus vite, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça une ville divisée, fracturée. Nous, notre ambition, c'est vraiment que tous les Marseillaises et Marseillais vivent ensemble et puissent se déplacer correctement dans la ville.
Merci, Madame Gassion.
J'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Audrey sur la question de la mobilité. Effectivement, juste dire qu'aujourd'hui, la mairie de secteur a décidé d'allouer un budget de 100 000 euros en direction des écoles primaires du secteur, parce que les mairies de secteur ont pu avoir un budget revalorisé grâce à la volonté du maire de Marseille. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire non, mais il faut amener les enfants vers la culture. Mais vous savez, quand vous êtes à la Savine, vous êtes directrice d'école à la Savine, c'est le point le plus haut quasiment du secteur. Aller au Mucem avec une classe de 30 enfants et prendre des transports en commun, je parle sous le contrôle de ceux qui en ont l'habitude, c'est la croix et la bannière, avec le risque de perdre un enfant. Parce que justement, on a un réseau de transport en commun qui est indigne pour les quartiers nord de la ville. Aujourd'hui, on a fait ce choix en mairie de secteur pour permettre justement d'accompagner au mieux les écoles. Mais est-ce que c'est le rôle de la ville de Marseille? Est-ce que c'est le rôle d'une mairie de secteur? Nous le faisons par la force des choses. Nous le faisons parce que Sébastien et Henri et Eddy, pardon, le disaient à juste titre, nous sommes des enfants de ce secteur. Moi j'ai souffert de me voir interdire certains dispositifs, faute de moyens, faute de tout. Et donc, on essaie justement de pallier aux manques qui ont été les nôtres enfants. Mais ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et ça n'est pas normal que notre lycée d'enseignement général sur le 15e est obligé de déplacer sa première heure de cours parce que les enfants arrivent en retard, faute de place dans le bus. Ils arrivent tous à 8h15. Mais du coup, on a dû décaler l'heure de cours. Ça, c'est inacceptable. Et pour en revenir au pied des immeubles, aujourd'hui, il faut le savoir, avec le désengagement de certaines collectivités, et je ne parle pas de la ville de Marseille, je parle notamment du département et de la région. Vous savez, ceux qui font les animateurs aujourd'hui dans les bas d'immeubles sont les dealers qui offrent des piscines aux enfants, qui offrent des barbecues pour les fêtes de quartier, qui accompagnent les familles. Aujourd'hui, ce sont les dealers, et pour ceux qui travaillent en direction des cités, ils le savent parfaitement, c'est eux qui font ce travail de médiation et de prévention ou d'accompagnement, ce qui est quand même un paradoxe, hein, le plus complet. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Marseille. Alors oui, effectivement, depuis 3 ans, depuis changement de majorité, effectivement, il y a de très grandes améliorations qui ont été apportées. Audrey l'a dit, Sébastien, Eddy, en tant qu'adjoint au maire, ça c'est indéniable. Mais pour autant, il y a encore beaucoup à faire. Et nous avons besoin, c'est pas pour mettre la pression, hein, monsieur le préfet, que les choses soient bien claires, mais nous avons besoin de l'État, de sa force de frappe, de ses financements pour arriver à avoir une ville qui est juste normale. Et moi, je vous le dis, j'en ai marre qu'on parle de la ville de Marseille en disant il y a eu encore un meurtre, il y a eu encore un règlement de compte, il y a eu encore... Moi, j'aimerais qu'on parle de nous en disant, ben voilà, voilà ce qui se passe à la ville de Marseille, voilà les jeunes, des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui ont réussi, des familles qui s'en sortent. Et moi, j'aimerais qu'on parle de cette manière-là. Et moi, je ne suis pas dans le Marseille bashing. Moi, j'ai envie de valoriser l'image de Marseille. Je pense qu'on a toutes les conditions sont réunies. Vous vous rendez compte, il y a plus de 60 enfants, 60% des enfants qui rentrent en 6e dans une ville balnéaire comme la ville de Marseille qui ne savent pas nager. Mais on devrait avoir honte. On devrait avoir honte de communiquer de tels chiffres. Donc nous avons besoin de l'État, nous avons besoin de vous, monsieur le préfet, pour nous accompagner et aller plus loin, parce que, vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. Donc nous avons besoin d'argent, donc nous avons besoin de vous.
Bien, je voudrais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit et qui ne va pas vous surprendre, parce que ça va dans le sens de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que vous pouvez compter sur l'État présent pour opérer une forme de rattrapage sur Marseille. C'est l'ambition du plan Marseille en grand. Vous avez évoqué quoi, Madame la maire ? Vous avez évoqué la question des transports. Évidemment, les transports, c'est fondamentalement important. J'ai pu le voir sur d'autres agglomérations où il y avait eu aussi des retards. Et le meilleur moyen de désenclaver des quartiers et de créer de la mixité et de permettre l'accès aux services et de pouvoir être dans un environnement beaucoup plus, social, eh bien, c'est précisément les transports. Donc le sujet transport est un des pans essentiels de Marseille en grand. Il y a des opérations de rattrapage à réaliser. C'est l'ambition des ouvrages qui sont à réaliser sur le métro, sur le tram. Vous le savez, puisque le président de la République a eu l'occasion de venir et ces projets doivent maintenant trouver une concrétisation. En tout cas, l'État, aux côtés des collectivités, se mobilise. Le deuxième sujet, vous l'avez évoqué, c'est l'école, le savoir. C'est important, le savoir. Et l'école, il y a un plan ambitieux, en particulier à Marseille. On parle quand même de la réhabilitation, reconstruction, parfois complète, de 188 écoles. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça représente. C'est absolument énorme. Sous l'autorité du préfet Mirement, de la ministre qui est chargée précisément du plan Marseille en grand, eh bien, on se mobilise là actuellement avec vous sur le sujet des écoles. On va avoir l'occasion d'en reparler d'ailleurs très rapidement. Et puis, il y a le sujet, Audrey Gassion est là, elle le sait très bien évidemment, de l'aménagement urbain, de la rénovation urbaine. Alors avec l'ANRU, il y a eu un engagement pour Marseille de 650 millions d'euros dans le cadre du NPNRU. Alors c'est programme, je le dis pour les auditeurs, de rénovation urbaine. Toutes les opérations ont été engagées par l'Agence nationale. On est dans une phase maintenant qui doit entrer dans une phase opérationnelle. Des conventions ont été signées, notamment avec la ville, la métropole et l'ensemble des collectivités qui sont parties prenantes, les bailleurs évidemment, notamment ici, on est dans le Grand Malpassé, Grand Saint-Barthélemy. Eh bien, c'est notamment le cas ici. Donc on va pouvoir entrer dans une phase opérationnelle pour créer un environnement beaucoup plus satisfaisant. C'est 650 millions d'euros à Marseille, c'est 190 millions d'euros en dehors de Marseille. Donc on n'oublie aucun quartier, aucune ville non plus des Bouches-du-Rhône. Hein. Enfin, il faut donc, il y a des moyens qui sont engagés avec les collectivités. C'est le, par exemple, et il y a un effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? C'est on met des crédits et avec les collectivités, avec les partenaires publics et privés, on arrive à obtenir des retombées économiques et sociales très importantes. Marseille en grand, c'est 5 milliards de fonds d'État directement investis qui doivent avoir un effet de levier à 15 milliards d'euros. C'est massif. C'est évidemment nécessaire, compte tenu du constat que nous partageons, il est consensuel hein, le constat, en particulier sur Marseille. Et puis, évidemment, en attendant, parce que tout ça, ce sont des projets d'investissement, ça demande un peu de temps, eh bien, toutes les actions qui pourront être faites au quotidien, au plus près des quartiers, le bus dédié à Ramdam, avec lequel nous avons un vrai partenariat, est une excellente idée. Voilà, vraiment excellente idée, je tiens à le féliciter, tiens à vous féliciter. Les quartiers d'été, c'est-à-dire bas d'immeubles, où on va créer de l'activité sociale et culturelle, ben, il faut le faire en attendant, c'est important. Mais n'oublions pas, vous avez raison de le dire, les investissements que nous devons collectivement réaliser et faciliter. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Laurent Carrier est parti. Michael Sibiu est arrivé, mais c'est le principe de l'État. Il y a une constance de la présence de l'État. Et en tout cas, je suis ravi de lui succéder et ravi de travailler avec vous, vraiment. Je vous le...
On compte sur vous et on n'a pas de doute sur votre engagement. Je dis juste qu'effectivement, mais d'ailleurs je l'ai rappelé, il y a eu effectivement une aide considérable de l'État qui nous permet justement d'avancer. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc voilà. Seulement, c'est le temps politique. Et vous savez, après, il y a le temps dans la vie des gens. Et quand vous parlez du tramway à horizon 2027, 2028, 2030, c'est vrai que c'est court dans le temps politique pour ceux qui ont eu l'habitude de l'exercice politique. Mais dans la vie des gens, quand vous leur dites vous aurez le métro, vous aurez le tramway au bas de votre immeuble, devant votre maison en 2029, en 2030, pour eux c'est énorme. En attendant, il faut essayer, et c'est de ce point de vue-là, que c'est de cette manière-là que je vous interpelle, il faut arriver justement à trouver une transition pour apporter des réponses. Voilà. Et notamment sur le tramway, c'est très très bien, c'est Audrey qui le suit pour la ville de Marseille. Sur le secteur nord de la ville, dans le 15-16, on désenclave la partie littorale, mais je rappelle juste qu'il y a un bassin de vie de plus de 35 000 habitants sur les Égalades, la Savine, le Castellas, eux, leur vie ne change pas. Donc effectivement, le tramway va apporter une réponse sur la partie littorale, et c'est très bien. Et c'est très bien, et c'est une nécessité. Mais il faut aussi penser aux habitants des Égalades, il faut penser aux habitants de la Solidarité, de la Granière, des Égalades. Cela, par contre, il ne se passe rien. Il faut aussi apporter une réponse. C'est de ce point de vue-là, mon intervention, c'était dans ce sens-là, vous l'avez bien compris. Et puis moi, mon rôle, c'est de ne pas dire que tout va bien, c'est de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et sur ce qu'on peut améliorer. C'est pour ça que je tenais à vous interpeller. Sonia, je vous passe la parole et je ne parlerai plus.
Oui, simplement puisque l'école de la deuxième chance a été citée, donc en fait rappeler que cette école, donc elle bénéficie d'un large soutien de la ville. On est ici dans les locaux qui appartiennent à la ville. On l'a dit, rappelons-le, c'est une école qui est ouverte à tous. Donc voilà, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, les jeunes, leurs familles, les accompagnateurs, pour leur rappeler que c'est un outil qui est là, c'est une main tendue et qu'il ne faut pas hésiter quand on a des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont un peu paumés, un peu en perte de repères, qui ne savent pas trop quoi faire. Les rentrées, c'est toute l'année. On rentre quand on veut, on reste le temps dont on a besoin et on bénéficie d'une formation individualisée, on fait des stages en entreprise, on est tout à bien accompagné et ça fonctionne. Voilà, donc c'est un outil qui est formidable. Il faut s'en saisir, il faut l'utiliser. Voilà, donc venez nombreux nous voir et rejoindre l'école. C'est près de 1000 jeunes par an qui viennent.
Merci. Je voudrais juste remercier Sonia déjà pour le travail qu'elle fait au sein de l'école. On a un bel outil ici et en effet, on va devoir pouvoir faire pas mal de choses ici puisqu'on a un stade de foot, on a un gymnase. Il va falloir que les jeunes se l'approprient, notamment les jeunes de ce secteur-là du 15-16. Je voudrais juste rajouter une chose. On a parlé de Laurent Carrier, on avait évoqué et travaillé sur un sujet, et monsieur le préfet, j'en profite que vous soyez là, c'est la responsabilité sociétale des bailleurs. On a beaucoup parlé de l'ANRU, de l'argent qui est mis par l'État et par la ville de Marseille sur les questions des écoles, mais il y a une question notamment sur le lien entre le bus de l'entrepreneuriat et les jeunes qui entreprennent, qui pourraient pouvoir travailler sur ces clauses-là. puisqu'il y a des marchés closés. Mais sur ces marchés closés, moi, j'aimerais qu'on parle aussi d'un contingent. Il faudrait, vous êtes sensible à la question de l'accès au droit. Et moi, je rêve, depuis que je suis élu, même si ce n'est pas une question municipale, qu'on puisse avoir un contingent jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui arrivent à Marseille parce qu'il fait beau l'été. Ils s'arrêtent à Saint-Charles et ils ne repartent pas. Ils sont en rupture familiale. Moi, j'ai travaillé à Pôle emploi avant de faire toute autre chose. J'ai travaillé en mission locale. Et ce que me disent les assistantes sociales, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de logement, qui sont abusés sexuellement parce qu'ils sont dans des logements chez des gens qui les hébergent un temps. Et ensuite, soit qu'ils abusent d'eux, soit qu'ils les prostituent. On a la question des meurtres. D'un état qui est pour moi un état de guerre en Marseille, parce que le président de la République avait parlé de nous sommes en guerre lorsqu'il y avait le Covid. Moi, pour moi, dans certains quartiers, ces personnes-là sont victimes restent choquées comme des personnes qui sont en état de guerre parce que c'est des armes de guerre qui sont utilisées. Et ces jeunes-là vont vivre avec ça, vont vivre avec le sang qu'ils ont vu, vont vivre avec ces situations qu'ils ont vécues et vont vivre avec ça en étant plus grands. Et on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Parce que le travail de la DISPAV est un travail important. Mais pour autant, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et la responsabilité sociétale des bailleurs, c'est deux volets. Le premier volet, je l'ai appelé comme ça, mais ça pourra s'appeler autrement, c'est d'essayer de voir comment on fait pour ces jeunes-là. Pour ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont du mal à se loger parce qu'ils n'ont pas des salaires, parce qu'ils n'ont pas des garants, même si le loca passe, même si Action Logement fait du travail là-dessus. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que certains bailleurs, lorsqu'ils répondent à un appel à projet, puissent avoir des clauses sociales, des clauses de mise à disposition de logements pour les jeunes et de mise à disposition aussi de jeunes entrepreneurs au pied des immeubles. Il y a beaucoup d'associations, Sébastien Gibrel tout à l'heure l'a dit, Nadia Boulenseur et Audrey Gassian ont parlé du travail que font les associations. Ce travail est formidable, mais pour autant aussi il faut de l'entrepreneuriat au pied de ces immeubles. Certains quartiers, ce n'est plus possible aujourd'hui de le faire parce que la situation est tellement dramatique qu'il va falloir faire en sorte de faire revenir les services publics dans ces quartiers-là, mais il faut aussi de l'entrepreneuriat. Quand un jeune entrepreneur, moi je suis né à la solidarité, monte une société d'ascenseurs, qu'il est ascensoriste, et on en cherche beaucoup à Marseille des ascensoristes, on doit lui donner la possibilité d'aller sur des marchés closés, mais on doit aussi lui donner la possibilité d'avoir des bureaux, d'avoir des locaux, peut-être dans son quartier, parce que au lieu que ce soit le trafiquant qui va aller voir le jeune pour lui proposer du travail illégal, peut-être que ça peut être ce futur employeur qui va lui proposer de se former et travailler pour lui. Donc moi je crois en ce, et je le dis là où je peux, depuis 3 ans, je crois à cette responsabilité sociétale. J'ai parlé des bailleurs parce que les bailleurs peuvent agir là-dessus, ils agissent beaucoup sur certains domaines, et je suis sûr que si un bailleur le fait, d'autres vont suivre derrière. Et le contingent jeunesse est une chose, et je pense qu'on en aura besoin, qu'un jour on devra venir là-dessus, parce que la deuxième ville de France, mais en France en général, on ne peut pas se contenter d'avoir des jeunes qui sont abusés sexuellement parce qu'ils n'ont pas de logement. Et donc je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce sujet-là. Le bus de la jeunesse, ça a été une réelle volonté. J'avais cette idée de vouloir mettre ça en place, et on a réussi à le faire parce qu'on avait des personnes qui étaient de qualité. Et moi, comme l'a dit Nadia, comme l'a dit Audrey et comme l'a dit Sébastien, je crois fortement que on a de la chance d'avoir un délégué du préfet, un préfet à l'égalité des chances, excusez-moi, qui entend ces questions-là et qui est sensible à ces questions, mais qui l'est vraiment, et qui a envie de faire pour Marseille. Ça se sent, ça se voit, et je suis certain qu'on arrivera à relever ce défi ensemble, et je vous en remercie.
En tout cas, je vous remercie. Je sais que vous êtes attendu sur notre point presse, donc je vais vous libérer. Par contre, ce que je vous propose, c'est de rester avec l'école de la seconde chance, Pôle emploi et l'émission locale pour continuer cette émission. Merci. On fait une petite pause musicale avec le morceau « Les Jeux Olympiques » de Bruno Coupé.
Viens que je t'explique, les Jeux Olympiques, des bandes de loustiques font des concours de gymnastique, mexicains, britanniques, africains ou bien asiatiques, à chacun sa tactique pour gagner les Jeux Olympiques. Alors je ne sais pas si on vous a prévenu, mais vous avez tous été sélectionnés pour participer aux prochains Jeux Olympiques de la Freinet. Je m'appelle Bruno Coupé, je suis votre entraîneur, et tous ensemble, nous allons tenter de gagner la médaille d'or. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever, car nous allons commencer l'entraînement dès maintenant. Allez debout. Ils sont arrivés par milieu, je pourrais pas vous citer tous les noms. Même les filles sont musclées, mais je joue pas avec les garçons. Comme des cousins Bertin, l'important c'est de participer. Alors je mets les mains sur les hanches et je commence par m'échauffer. Alors pour commencer, nous allons procéder à un petit échauffement. Nous allons mettre les mains sur les hanches, les jambes bien écartées. Puis nous allons faire tourner toutes les parties du corps, à commencer par les chevilles et les genoux. Les hanches, les fesses, les épaules, le cou et la tête. Allez, je veux voir tout le monde s'échauffer. Allez, go. Bien, nous allons pouvoir passer à la première épreuve. Télévision, j'attends le signal de l'arbitre. Là les épreuves de natation, ah zut, les bouées sont interdites. Je fonce dans la salle de bain, le lavabo me sert de plongeoir. Je m'entraîne comme ça, tous les matins, c'est parti, plouf, dans la baignoire. Alors les épreuves de natation, bien sûr, vous connaissez. On pose une main contre l'autre. On pousse les bras vers l'avant. On écarte. Et on ramène. Et on recommence ainsi de suite. Et si on veut gagner la médaille d'or, il va falloir aller le plus vite possible. Vous êtes prêts ? Ce joli concours de grimaces. Si un jour je suis sélectionné, je monterai sur le podium à sa place. Alors, cette épreuve, vous avez sûrement déjà vu aussi. On va imaginer qu'on a récupéré le balai de la maison. À chaque extrémité, nous y avons accroché un sac de pommes de terre, ou un pot de fleurs, ou sa grand-mère, enfin bon, quelque chose de très très lourd. Puis, nous allons faire passer le balai sur les épaules. Ensuite, il va falloir s'accroupir. Et la difficulté, ça va être de se relever sans faire craquer son pantalon. On y va. Et on jette comme ça. Des bandes de loustiques font des concours de gymnastique. Mexicains, britanniques, africains ou bien asiatiques. À chacun sa tactique pour gagner les Jeux Olympiques.
Les échos en direct de l'école de la seconde chance pour une émission, contrairement aux apparences, au sujet des Olympiades. Ils sont autour de la table avec nous Clémence Gentot, directrice de l'agence Pôle emploi du 14e arrondissement, donc Carré-Gabriel, Issam Benasseur, chargé de projet pour, à la mission locale de Marseille, du 13-14, d'accord. Ensuite, deux invités viennent de nous rejoindre.
Présentez-vous.
Madame Gaillot.
Madame
je dors de la caillole.
Madame
et Madame Ndiaye, fondatrice de l'association Passerelle dans le 9e.
D'accord. Donc, dans un premier temps, ce que je propose quand même, c'est d'essayer de voir les dispositifs mis en place par la mission locale et Pôle emploi en direction de cette jeunesse.
Alors, je suis M. Benasseur de la mission locale de Marseille. Je suis chargé de projet, coordination, formation, emploi. La mission locale donc, s'occupe de l'ensemble des jeunes marseillaises et marseillais de 16 à 25 ans. Et on a une approche qui est plutôt globale au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va s'occuper à la fois de l'insertion sociale, mais aussi de l'insertion professionnelle, qui est l'objectif quand même ultime, c'est de rendre autonome le jeune. Je vais rebondir par rapport à ce qui a été dit juste avant, et c'est vrai que la question du logement est une question qui est fondamentale à Marseille, et c'est vraiment une crise, voire les centres d'hébergement sont saturés rapidement. Donc ça, c'est une question qui est fondamentale. J'en reviens maintenant au sport et à l'insertion, et c'est vrai que le sport est un vecteur fantastique et un moyen... fantastique pour s'insérer à la fois socialement et professionnellement. Je vais reprendre ce qu'a dit Madame Janton par rapport à ce qu'organise Pôle emploi. La mission locale organise cela également. C'est une nouvelle manière de recruter, c'est-à-dire recruter, mais en se basant à l'esprit sportif. C'est-à-dire que nous invitons des chefs d'entreprise et des jeunes à soit faire un match de foot, un match de rugby, faire du basket. On mélange les jeunes et les chefs d'entreprise. Ensuite, il y a la phase de recrutement. C'est un job dating qui est un peu particulier et c'est vrai que ça donne des résultats qui sont quand même assez fantastiques parce que les jeunes sont souvent stressés, n'osent pas parler, n'osent pas s'exprimer et ont beaucoup de difficultés à montrer leurs compétences et leur savoir-faire ou leur savoir-être en entretien individuel classique. Alors que là, ça se passe autour du sport, ça se fait, mais de matière naturelle. Le respect, la ponctualité, l'esprit d'équipe. Et là, le chef d'entreprise arrive vraiment à voir la personnalité du jeune. Et ça enlève beaucoup de barrières et ça enlève énormément de freins.
Juste pour rebondir, c'est bénéfique à deux niveaux, en fait, hein, parce que ça lève des freins. Pour les entreprises qui parfois peuvent avoir certaines idées reçues et des freins pour les candidats. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, ça, c'est devenu quand même un levier important dans l'insertion professionnelle. Juste pour revenir sur les dispositifs à destination des jeunes qu'on mène, que ce soit la mission locale et Pôle emploi, et là je m'adresse aussi à tous les auditeurs, c'est la présentation quand même du contrat d'engagement jeune. À aujourd'hui, voilà, il y a quand même des accompagnements à destination des jeunes avec un conseiller qui accompagne, on va dire, une trentaine de jeunes en simultané, ce qui est très peu en fait, hein, et donc ce qui montre le temps qui peut être dédié à cet accompagnement, et avec une nouveauté, c'est un peu moins nouveau, mais c'est peut-être encore méconnu, la possibilité aussi d'avoir une allocation financière par rapport à cet accompagnement-là, ce qui n'existait pas avant. Et souvent, c'est vrai que les jeunes n'ont pas d'aide financière parce qu'ils ne sont pas forcément indemnisés, parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Et qu'à aujourd'hui, cette aide financière, elle est importante, et notamment par rapport aux problématiques financières de logement, etc. Donc, voilà, moi, je...
C'est une aide d'environ de 500 euros, un peu plus de 500 euros par jeune par mois. Mais en contrepartie, le jeune doit quand même s'engager à faire des démarches dans la semaine, c'est-à-dire aller rencontrer des employeurs, aller travailler sur son projet, faire le point régulièrement avec son conseiller. Donc ce n'est pas 500 euros qu'on va donner comme ça automatiquement. Il faut vraiment que le jeune s'engage vers son accompagnement. C'est pour lui.
C'est l'équivalent de... C'est la garantie jeune, c'est ça ?
Pardon ?
La garantie jeune.
Oui, c'est ce qui a remplacé la garantie jeune. Okay. Et à côté, il y a aussi un autre dispositif d'accompagnement qui s'appelle le PACEA, parcours d'accompagnement d'accès à l'emploi. C'est le PACEA, où là, pareil, le jeune, mais la rémunération n'est pas automatique. Il y a des aides qui sont ponctuelles. Il y a un accompagnement également qui est fait. C'est un accompagnement qui est global. Hein, on va travailler sur la problématique du logement, on va travailler sur la problématique de la santé et également sur la problématique de l'insertion professionnelle.
Bon, l'idée, c'était d'avoir un message un petit peu positif dans tout ça. Et voilà, et c'est vrai que l'événement d'aujourd'hui, c'est un événement qui est très positif, qui est très jovial. Voilà, de se dire qu'à aujourd'hui, il y a quand même des moyens importants qui sont mis à disposition pour l'emploi des jeunes, qui est un vrai sujet, et d'autant plus dans ces territoires-là. Et il faut arriver à se saisir des dispositifs, d'où l'importance aussi pour nous d'être sur ce type d'événement aujourd'hui avec les habitants du territoire.
Merci. Nous a également rejoint Christelle Lebrun, responsable sourcing de l'école de la seconde chance, et Brahim Timricht. Christelle, je vais peut-être vous laisser nous présenter l'école de la seconde chance, qu'on ne devrait en théorie plus présenter, mais c'est
ton
jamais.
Je suis d'accord. Bonjour à tous. Alors, l'école de la deuxième chance est un dispositif qui a justement 25 ans cette année, et dont la mission est de s'occuper des jeunes entre 16 et 25 ans. On reste bien un dispositif jeune. Et notre métier, c'est de les aider à préparer, à construire ou à valider un projet professionnel dans une logique tremplin d'insertion. Donc notre mission en trois volets, c'est de faire de la remise à niveau ou en tout cas de l'accompagnement à la progression pédagogique pour accéder notamment à de la formation. C'est aussi des stages en entreprise pour découvrir ou valider donc des métiers. Et ensuite, c'est un volet pédagogique un peu innovant où on apprend autrement, par des activités pédagogiques qui sont dans tous les domaines de compétences, que ce soit l'art, le sport, la culture, la citoyenneté, ce genre de choses. Notre but ultime, c'est que quand ils partent de chez nous, ils aient trouvé leur vocation, si possible, trouvé l'emploi ou la formation qui correspond. Et en même temps, on a travaillé tout le volet citoyenneté pour en faire donc des adultes qui sauront ensuite se débrouiller dans leur future vie d'adulte. En quelques mots, on a trois sites dans les Bouches-du-Rhône, Miramas, Marseille 15e et Marseille 9e. Donc ça s'adresse à tous les jeunes de Marseille, y compris des jeunes hors Marseille, bien évidemment. Et ensuite, nous avons des spécialités, donc des filières, on appelle ça des filières. Et là, donc, je vais en profiter pour faire un peu d'annonce. J'ai une filière à l'année sur le site de Saint-Louis dans le 15e qui est dans les domaines de la restauration. Donc pour travailler les métiers de la cuisine, du service, les métiers de bouche et le métier de pizzaïole. Donc aussi pâtissier, boulanger, boucher et boulanger. J'ai une filière à l'année dans le domaine du sport. Donc cette fois-ci sur l'antenne du 9e, où on prépare donc au métier d'éducateur sportif, animateur sportif ou coach sportif. Et là, donc à partir des prochaines semaines et mois à venir, on va ouvrir ou réouvrir des filières. Donc une filière phare qui existe déjà depuis quelques années et que l'on a en partenariat avec l'ADAP13, le groupe ADAP13, et qui est donc une filière uniforme. Et donc là, ça consiste à préparer des jeunes au concours des métiers donc de la défense, armée, police, gendarmerie, légion, pompiers, etc. Donc là, on va commencer les recrutements au mois de septembre. Nous allons donc ouvrir aussi une filière transport logistique, donc pour préparer aux métiers de cariste et de préparateur de commandes, mais également d'autres métiers, hein, approvisionneur, agent de quai, etc. Donc celle-ci, elle va ouvrir toute fin octobre dans le 9e. Et sur cette filière, ce qui est intéressant, c'est qu'on va financer le CACES et on va également financer la partie code du permis de conduire. Donc là, c'est quand même pas mal. C'est un partenariat avec la fondation CMA-CGM. Et donc à venir ensuite dans les prochaines filières, on va avoir une sublime filière donc qui devrait voir le jour en janvier, puisque là c'est complètement innovant. Ça va consister à construire un ULM, donc avec Aviation Sans Frontières. Donc là on a équipé les locaux pour accueillir ce kit, et donc les jeunes qui vont participer à ce projet vont monter un ULM, vraiment, et le faire voler. Donc avec baptême de l'air. Ça se fait avec en partenariat avec la mission locale où ils sont partie prenante dans ce projet-là. Et ensuite, sur les projets à venir, qu'est-ce que je peux oublier ? C'est l'essentiel. On va ensuite travailler sur d'autres filières, mais je ne peux pas encore vous en parler parce qu'on est vraiment à l'état de projet. Et dernière chose, donc on fait des rentrées tous les 15 jours toute l'année. Il n'y a pas de date de début et de date de fin. Et il y a également une rémunération à l'E2C et le CEJ est une solution qui nous adresse les jeunes, puisque nous sommes dans le parcours du CEJ.
Merci beaucoup, je vais vous libérer.
Ah. Merci.
Non, je voulais juste dire que l'école de deuxième chance fait partie d'une solution structurante pendant le parcours du jeune qui est en contrat d'emploi jeune. Et c'est vrai qu'entre l'école de deuxième chance et la mission locale, c'est une grande histoire d'amour hein, depuis des années. On travaille très très bien en partenariat et on peut s'en féliciter quand même.
Merci beaucoup. En tout cas, il y a de beaux projets et merci de nous en avoir fait part. On va faire une nouvelle respiration musicale. pour pouvoir libérer nos invités. Merci à vous d'être venus et de nous avoir accordé un certain temps quand même. Ça fait un moment que vous êtes avec nous. Et le morceau que nous avons écouté est un morceau de Mentissa, Mamma Mia.
Merci.
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 Elle se lève et descend rêve ou un mauvais film. Une Italienne, il était son homme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. Mamma mia, que j'étais. Est un animal, est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche quand tout à coup. Mamma mia, que j'étais. Un animal, est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile, empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi. Qu'on prenne la cocu qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison, pauvre de toi.
Chers auditeurs, nous sommes à nouveau en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy sur cette émission spéciale Olympiade. Et autour de la table, nous avons avec nous Madame Galliot de l'Âge d'Or de la Cayolle, Madame Ndiaye de. J'ai déjà oublié, excusez-moi, j'ai mémoire de poisson, de Passerelle. Comment puis-je oublier un nom pareil? Ebrahim Timrist du Grand Bleu. Je vais vous laisser vous présenter, mesdames. Vos associations, vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Madame Galliot, donc l'Âge d'Or.
L'Âge d'Or de la Cayolle.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, l'Âge d'Or de la Cayolle, j'ai monté cette association quand je suis tombée malade. Donc, je voyais beaucoup de choses qui n'allaient pas, et surtout pour les familles. Donc, j'ai créé cette association. C'est une association, une mixité sociale surtout, puisqu'on a toujours vécu sur ce quartier. Et petit à petit, on apporte un peu plus de choses, surtout cette année. Quoi. Cette année, ça a été très dur pour avec Diatou, Passerelle. On est pendant 2 mois sur le terrain, je vous assure qu'on est sur le... Mais on le fait volontiers. Volontiers, je remercie aussi le Grand Bleu, avec qui on a un partenariat... vraiment, alors la CLG aussi, on a fait beaucoup de choses, tout ça. Bon, il y a la politique de la ville, la préfecture. Enfin, on a beaucoup été aidés
cette année.
Voilà, mais avec les associations surtout. Ouais. Voilà.
Et Madame Ndiaye, alors Passerelle, qu'est-ce que c'est comme structure?
Alors l'association Passerelle, c'est une association qui est née en 2002. Mais au-delà, en 2006, notre territoire a connu des événements douloureux. Donc les jeunes avaient mis le feu dans le centre social où j'étais directrice adjointe. Et j'habitais dans le quartier aussi avec mes enfants. Et je ne voulais pas que cette violence-là arrive chez moi. Donc, on a mobilisé certaines familles et on a commencé à travailler autrement avec les jeunes du quartier. Donc, c'est une association, au départ, on n'était que sur la réussite éducative, l'accès aux loisirs et l'accès à la culture. Mais très vite, le problème familial nous a été, des difficultés familiaux nous ont été présentées, ce qui nous a amené à travailler sur l'accompagnement à la parentalité. Donc, c'est une association qui siège au conseil d'administration du collège du secteur. On est aussi la seule structure associative qui siège à la commission égalité des chances du rectorat Aix-Marseille Académie.
Et vous êtes sur quel territoire ? Sur la Cayolle aussi ?
Alors, on est situé sur le 9e arrondissement de Marseille, donc à côté de la Cayolle. On est juste entre le roi d'Espagne et la Soude.
D'accord.
Et on touche des enfants qui viennent de la Cayolle, de la Soude, du Bengale, la résidence du Bengale, et du roi d'Espagne et tous les copropriétés qui sont autour.
Brahim.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Brahim Timrich, le fondateur-directeur de l'association Le Grand Bleu depuis 23 ans. Je viens aujourd'hui ici pour parler des Olympiades nautiques et aquatiques qui sont déroulées le 19 août. Donc, ça, c'était bien sûr l'issue, donc la conclusion de 2 mois de travail. C'est-à-dire qu'on a mis en place 22 journées où se sont succédés tout le territoire du 14e, tous les habitants du territoire du 14e. On a envoyé des cars chercher ses enfants, ses mamans, c'est un peu tout le panel des habitants du 14e. Et le 19 août, on les a réunis pour justement s'affronter sur des épreuves telles que le kayak de mer, le paddle géant, la course en natation, donc en mer, parce que la moitié au début du projet ne savait pas nager, donc ils ont appris à nager au fil de ces 22 journées d'activité nautique. Et en parallèle, il y a eu aussi un tournoi de water polo et de kayak polo, ce qui n'existe pas ailleurs
et qui n'existait pas avant,
N'existait pas avant, tout à fait. Donc on essaye d'innover, et chaque année, on apporte des nouvelles activités, toujours en matière de nautisme et sur l'aquatique. En parallèle de ça, pour tous ceux qui ne pratiquaient pas, il y avait de la randonnée aquatique en palmascuba, pour les mamans aussi, et de la balade en voilier. Voilà pour cette journée du 19, qui s'est terminée en apothéose. Tout le monde s'est régalé, tout le monde était gagnant. Mais il y avait cet esprit Olympiade. Là, on travaille déjà à l'édition 2024, donc l'année des JO, voir comment reformater pour mieux s'imbriquer dans ces Jeux Olympiques.
Merci, Brahim. Mais tu disais que vous aviez reçu des jeunes du 14e uniquement ?
Non, cette année du 15e aussi. 14, et du 9e, et du 10e, et du 11e, et du 12e.
C'est bien ce qui me semblait.
Parce que Fabienne voulait ouvrir justement ces JO à quasiment tous les QPV de la ville. Et c'est pour ça qu'on les a aussi reçus et qu'elle voulait cette mixité. Et c'est très bien parce que ça a matché, et des gens qui de différents territoires qui sont venus naviguer ensemble, qui sont venus naviguer les uns contre les autres, nager les uns contre les autres et apprendre à nager ensemble.
Et oui, les uns avec les autres. Et vous, mesdames, vous avez participé à ces Olympiades nautiques ou à certaines activités mises en place par le Grand Bleu ?
Alors, on a participé, oui, aux activités du Grand Bleu pour des petits qui ont appris à nager. Donc, il y avait l'association parents l'association. Il y avait une autre association avec nous.
Aussi, il y avait la DAP aussi avec vous.
Voilà. Il y avait la DAP avec nous, tout ça. Et ils ont fait de la plongée.
C'est ça, randonnée aquatique.
Oui. Et les mamans aussi, parce qu'il y a eu les mamans.
C'était rigolo de voir les mamans mettre le masque et le tuba pour la première fois de leur vie. Elles sont toutes arrachées au bout de 5 minutes.
La balade en bateau, ils ont fait.
C'est sympathique.
Voilà, le paddle, le kayak. Par contre, ça a été merveilleux pour eux.
Ben pour vous, ça a été merveilleux et pour nous aussi.
Ça a été alors, surtout qu'elles avaient peur au départ, et vraiment, ça a été une
chose. En plus, on parle face à face, parce qu'on ne s'est pas revu depuis ces journées. C'est pour ça.
Et vraiment, elles étaient là, présentes. Franchement, c'est...
On a passé un aussi bon moment que vous.
Voilà, c'est... mais on vous remercie parce que vous avez une patience. Oh là là.
Merci à mon équipe, merci aux financeurs, hein, métropole, préfecture, département, ville de Marseille. Donc on les oublie pas et d'autres partenaires privés, mais voilà, il faut tout ça pour que ça marche, quoi, pour que ça, on puisse mettre toutes ces activités en place.
Et en plus, on aura dit à des jeunes, aussi bien filles que garçons, qui pouvaient pour s'inscrire pour être surveillants de baignade.
Tout à fait. J'y viens rapidement. Donc, le Grand Bleu, depuis novembre 2022, est devenu organisme de formation au métier de l'eau. Donc, on forme les maîtres nageurs, les sauveteurs BNSSA qu'on retrouve sur les postes de secours de la ville et les surveillants de baignade pour accompagner les enfants en centre aéré à la plage ou à la piscine. Donc voilà, et le lancement de la formation de BNSSA, qui est pas mal demandé, c'est le lundi 4 à la piscine de la Busserine à 19h.
Ah, une belle rentrée sportive
voilà.
À la Busserine. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Quelles sont les conditions requises pour devenir...
Mais justement, on est un pôle de formation ouvert à toutes et à tous. Il n'y a pas de conditions, il faut juste amener le maillot.
Hormis savoir nager quand même.
Et justement,
22 jours,
justement,
et c'est bon.
on a des jeunes qui ne savent pas nager au début du projet.
Alors, une question qu'on vient de me poser, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir devenir sauveteur
Non.
Voilà.
Non.
Une bonne information.
C'est après, pour pouvoir travailler avec, il va falloir qu'il soit levé. Et tout dépend de quel casier aussi.
Oui, de ce qui est noté dessus.
Voilà. Voilà. Mais il n'est pas nécessaire de savoir nager.
On a bien entendu qu'en 22 jours, vous avez fait des miracles quand même.
C'est ça la différence avec notre organisme de formation. Ça veut dire que nous, on a eu un jeune qui s'appelle Ben, je ne dirais pas son nom de famille. Il a mis 2 ans pour passer son BNSSA. Et on l'a gardé pendant 2 ans. Parce qu'il ne savait pas nager au départ.
Et la prise en charge
C'est un coût vraiment minime, histoire de participer. Parce que le gratuit, c'est à double tranchant, on l'a déjà tenté. Ça nous est revenu en pleine face. Donc voilà, il y a une petite participation, mais sinon, c'est financé par la métropole et l'État avec l'infrastructure de la ville de Marseille.
D'accord. Madame Djaï, vous voulez dire quelque chose?
Alors, je salue le travail du Grand Bleu, parce que bon, on n'a pas l'habitude, on se voit pas souvent, parce que c'est souvent Ken qui vient sur les activités ou Mohamed. Donc je voulais juste parler en tout cas des Olympiades. Ici, aujourd'hui, parce qu'on a passé aujourd'hui une journée qui est à l'honneur dédié à Patrick Barreau, une journée qui lui ressemble aujourd'hui. Parce que Patrick, nous, on l'a connu dans nos secteurs quand il était délégué du préfet. Aujourd'hui, notre secteur vit des choses, des moments difficiles, avec tout ce qu'on connaît de Marseille, qui se passe aussi aujourd'hui à la Cayolle et qui nous touche tous. Et qui cette journée, l'organisation de cette journée nous a permis aujourd'hui d'oublier un peu. On n'oublie pas, mais aujourd'hui, au moins, on a un bouffet d'oxygène. Parce qu'on est tous là, le quart de 60 places que nous a mis à disposition la préfecture avec la DAP, avec la JOR, Passerelle et tout, est rempli. Les enfants sont là. On s'inquiète même pas pour les enfants. Alors que là, vous descendez à la Cayolle ou à la Soude, les parents, les enfants, ils sont enfermés du matin au soir.
Donc, les parents sont inquiets.
Sont inquiets. Et cette inquiétude-là touche aussi nous, les travailleurs de terrain. Et ce qui est génial, c'est que cette journée, on ne pouvait pas nous se l'offrir. Ce n'était pas possible. Et ça arrive à une date qui n'était pas calculée. Et ça vient donner tout son sens au travail de terrain, au travail de prévention, au travail d'accompagnement et des familles et des enfants qu'on fait tout le long de l'année. Donc moi, c'est ça que je voulais rajouter. Et je remercie la radio aussi, parce que je ne vous connaissais pas, je vous rencontre et c'est magnifique. C'est juste magique de pouvoir aussi aujourd'hui dire ce qu'on a dans le cœur. Merci.
Merci à vous pour votre intervention. Et merci de nous avoir rappelé quand même que cette édition
Patrick Barreau. Voilà, que ce soit nautique ou terrestre, c'est vrai.
Voilà,
l'édition
donc,
Patrick Barreau.
Patrick Barreau, qui était le bras droit de Fabienne Benet, qui est à l'initiative des Olympiades depuis l'année 2020. Quoi. Donc,
exactement.
Alors, en off, Jean-Marc, qui est à ma droite, demandait l'âge des activités.
Nautique ?
Des activités nautiques.
Sept ans, sachant nager, mais sinon, c'est à partir de 7 ans. C'est 7 ans, sachant nager, mais comme il y a un test qui s'appelle le pass nautique avec gilet de sécurité, donc c'est toujours 7 ans minimum, mais même s'ils ne savent pas nager. Donc s'ils réussissent le test nautique, ils peuvent pratiquer toutes les activités. 7 à 77 ans. De 7 à 107 ans, je dirais.
De 7 à 107 ans, c'est pas mal, c'est une belle tranche d'âge. En tout cas, merci à vous. On va se mettre une nouvelle respiration musicale avec un morceau de Queen, Don't Stop Me Now. Have myself a real good time. I feel alive. Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct de l'école de la Seconde Chance pour cette édition spéciale Olympiade 2023. Il vient de nous rejoindre M. Saïd de la CES. Oui, édition Patrick Barrault. Donc vient de nous rejoindre M. Saïd de la CES, Yazid Atala de l'association 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 7. Et Marion de Marseille Nord Handball. Marion Ricardo, excusez-moi. Donc, je plaisante, c'est détendu parce qu'on a l'habitude de les recevoir et de travailler avec. Donc, je voulais quand même les laisser se présenter, parce que moi, j'ai l'habitude et peut-être, chers auditeurs, certains d'entre vous ne les connaissent pas, ce qui serait quand même surprenant. Honneur aux dames, Marion.
Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marion Ricardo, je suis directrice de l'association Marseille Nord Handball. Donc, on est un club de handball implanté sur les gymnases de la Savine et de la Busserine. Et nous avons aussi pas mal d'actions en pied d'immeuble, des actions sportives où on met en place, voilà, on fait pas mal de liens avec les habitants aussi sur des sorties et des séjours derrière. Et d'autres projets avec la jeunesse.
Monsieur Ahmed Saïd.
Oui, bonjour tout le monde. Je suis monsieur Ahmed Saïd. Je suis le responsable de l'association ACES de Flama. Bon, nous, nos actions se basent aux enfants. On fait pas mal d'activités pour les enfants. Actuellement, on a rajouté un peu les activités pour les aînés, les mamans. Donc, c'est ça. Donc, le sport, un peu de tout.
Très bonne chose. Je pense que vous nous en direz un petit peu plus au fil de l'émission. Yazid.
Bonjour et merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir que de vous voir. Je suis président d'une asso qui s'appelle 7 Santé Environnement pour tous. Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, non. C'est une association qui a pour but de réduire les inégalités en santé. Et donc, en cela, on participe à accompagner les gens vers l'accès aux soins par des actions de rue, d'aller vers, du porte-à-porte. J'expliquerai après si.
Exactement.
Et de prévention, sans aucune prétention.
Ce qu'on peut voir ensemble aujourd'hui, c'est votre implication au niveau des Olympiades cette année. Puis après, si vous pouvez nous faire part de certaines nouveautés, puisque je sais que Yazid, il y a toujours des nouveautés. Monsieur Matsaïd, il nous a dit aussi qu'il avait de nouvelles actions qui étaient en cours. Et vient de nous rejoindre Claude, du bus RTM, que nous connaissons très bien sur ce plateau. Et Marion, ton implication dans les Olympiades cette année, et surtout, est-ce qu'il y a des trucs un petit peu nouveaux, un petit peu cool? Oui, Claude,
vas-y, je suis soufflé, qu'on passe.
Bon, on va laisser Claude reprendre son souffle. Nous sommes au 10e étage de la tour Montparnasse. Et Marion.
Oui. Alors, cet été, on est intervenu sur plusieurs territoires, sur le 14e, sur le 15e, et donc on va faire un peu sur territoire. Notre projet principal, c'était les animations sportives en pied d'immeuble. Donc, on était sur 13 territoires tout l'été, une à deux fois par semaine, souvent en lien avec les partenaires de terrain, puisqu'on en discutait avec les collègues, mais on a eu un été particulièrement rude par rapport à l'ambiance prégnante sur les quartiers. Donc, on a mis en place des animations sportives avec en point d'orgue des tournois de hand dans les quartiers qui donnent lieu aujourd'hui aux finalités. On a mis en place aussi des sorties à la journée, des sorties famille sur le 15e.
Marion disait en off. Il y a eu moins de financement sur le 14e, donc si vous nous écoutez,
on a,
les
on a une petite baisse.
Le 14e a aussi besoin de ces pauses respiratoires, ces petits moments de respiration.
Du coup, on n'a pas pu mettre en place les sorties famille et les sorties à la journée, mais bon, c'est pas grave, on trouvera quand même d'autres façons de le mettre en place. Et là, on est sur l'organisation aussi de Marseille Express, qui a été décalée, parce que bon, entre la canicule et du coup le vent qu'il y a eu toute la semaine, ça a rendu un peu compliqué certaines activités. Et on a mis en place un séjour aussi, avec 52 enfants.
Merci Marion. Donc Elisabeth vient de nous rejoindre. Je laisse encore Claude reprendre son souffle. Non, Elisabeth peut reprendre son souffle aussi. Oui, d'accord. Donc Claude, est-ce que tu peux nous présenter, même si on ne te présente plus nous, mais les auditeurs, on ne sait pas. On ne sait pas si, avec un peu de chance, on a de nouveaux auditeurs. Ça serait sympa. Et qui ne nous connaissent pas. Donc, peux-tu présenter un petit peu l'activité du bus RTM?
Allez, j'espère. Donc le bus RTM, aujourd'hui, il a pour but, comme d'autres jours dans les cités, de faire des animations, l'animation, on va dire musique. Alors quelquefois c'est que la musique, c'est le micro pour annoncer un peu les équipes, les résultats. Le car podium, c'est un petit camion qui s'ouvre avec une scène qui nous permet de remettre aussi les trophées à la fin aux gagnants. Voilà, ça c'est juste une activité animation. Après il y a l'activité animation et boxe anglaise aussi. Il faut savoir que de temps en temps, quand on me demande, je viens des sacs autoportants avec des gants et on les initie à la boxe. On leur apprend à faire la boxe. Alors bien sûr, il n'y a pas d'opposition parce qu'en fait, je vois beaucoup, moi, dans les animations, je vois beaucoup d'opposition. En fait, il faut savoir que c'est interdit. C'est très dangereux si le gamin se blesse, on ne sait pas. Donc là, c'est que de l'initiation et ça leur permet aussi de se défouler dans les sacs. Ça leur fait du bien, quoi. Voilà à peu près à quoi il sert le car podium. Alors l'hiver, il sert aux arbres de Noël. Et puis toute l'année, les fêtes de quartier, on travaille souvent avec Marion, avec voilà, tout ce qui peut faire qu'on peut donner un peu de bonheur à ces jeunes dans les quartiers qui n'ont pas grand-chose à faire quoi, au final. Donc c'est très important.
Merci Claude. J'espère qu'Elisabeth a repris son souffle parce que je lui passe la parole.
Oui, bonjour.
Moi, je représente l'association Femmes Famille Fonds Vert. Et Femmes Famille Fonds Vert, dans le cadre des Olympiades, c'est plutôt orienté sur la partie logistique. Donc, au niveau de la gestion qui est quelque peu compliquée, des cars pour transporter...
Elisabeth, excuse-moi, je t'interromps. En fait, le micro plus proche. Ouais.
Pour la gestion donc des transports et puis la gestion de tout ce qui est nourriture et la gestion t-shirt et autres.
Ça, voilà. C'est pour aujourd'hui ou c'est tout au long de l'été ?
Non, ça c'était pour aujourd'hui. Tout au long de l'été, on s'est occupé de la session d'ouverture, donc le 5 juillet, où on a participé pour permettre les mêmes choses, à l'exception en fait, des t-shirts. Ensuite, on s'est organisé pour la journée, la clôture des Olympiades nautiques. Et là, maintenant, la clôture, puisque nous, dans le cadre des Olympiades, on se fait... Après, on oriente des enfants vers les associations, mais ce n'est pas notre cœur d'activité que d'avoir une activité sportive.
Alors, justement, voilà. Quel est votre cœur d'activité à Femmes Famille Fonds Vert ?
Eh ben, nous, la Femmes Famille Fonds Vert, c'est principalement la création de liens sociaux. Et on essaie de créer du lien social au travers d'ateliers, notamment d'ateliers de cuisine. Voilà, où on intervient beaucoup cette année, mais dans un autre cadre, dans le cadre de la cité éducative. On a fait la TOC du 14e, où on a réalisé un concours de recettes avec différents groupes de différents secteurs, notamment avec les Flamands, la SNCF, la Benos, Fonds Vert, enfin voilà. Voilà. Et donc, on est heureux de participer à ces Olympiades qui sont quand même si nous, on n'a pas une pratique sportive, une incitation, enfin, on essaie d'envoyer des enfants, mais on reconnaît que sur le territoire, et maintenant cette année, ça a été plus, puisque le 9e, 10e étaient associés, ainsi que le 11 ou 12, et puis une partie du 15e, la partie 15e Est, on reconnaît les bienfaits des Olympiades, parce que ça permet pendant toute la durée de l'été d'avoir des enfants qui peuvent pratiquer différents sports, notamment le hand, qui est pas forcément... les enfants sont pas forcément motivés, alors que pendant les étés où ils ont rien à faire, souvent, c'est bien de pouvoir avoir une activité liée au sport. Notamment, après aussi, il y avait les Olympiades nautiques, qui rencontrent toujours un grand succès, mais qui sont importants aussi, puisqu'on est face à des gens qui ont souvent ne savent pas nager ou n'ont pas la possibilité de pratiquer des sports comme par exemple la plongée. Ce qui n'est pas... Donc c'est vrai que les Olympiades, la mise en place de ces Olympiades, moi je considère que c'est extrêmement important pour l'ensemble du territoire. Voilà.
Nous partageons cet avis, je pense, tous autour de la table, Elisabeth. Yazid, quelques mots ?
Quelques mots pour présenter un peu nos activités rapidement. Donc nous, on est sur l'activité santé essentiellement, autour de la prévention en santé, notamment sur les trois thématiques, cancer du sein, cancer du col, de l'utérus et cancer du côlon, qui malheureusement, dans nos territoires, on est largement en dessous de la moyenne nationale et même de la moyenne marseillaise. Donc on a des médiateurs en santé qui vont vers cette population pour les informer, les accompagner, les orienter si c'est nécessaire. Notre intervention autour des Olympiades, parce qu'on a un volet aussi sport et santé, qui est quand même très important, et notamment dans nos territoires où la malbouffe fait un ravage, où les gens se négligent à ce niveau-là. Donc pour nous, il est important quand même de rappeler des éléments fondamentaux, que de bien manger, ça nous permet quand même de mieux vivre, ça nous permet quand même de moins de développer des maladies. Et lorsqu'on aborde la thématique de la santé, on l'aborde sur une thématique au sens large du terme. Ça passe par le quart de vie qui impacte énormément, et on l'a vu durant la Covid, où on avait moins de chances d'être contaminé si on avait une belle maison plutôt qu'un appartement. On se rend compte aussi que la légionelle dans certains territoires tue. On se rend compte qu'il y a aussi des problèmes d'ordre respiratoire lorsqu'il y a de l'humidité. Et puis il y a aussi un accompagnement. Les gens sont démunis dans nos territoires, ne savent pas où aller, comment se faire accompagner. Donc les médiatrices et les médiateurs, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, parce qu'il n'y a pas que des médiateurs, il y a un infirmier, il y a un médecin. On est implanté dans le 13, 14, 15, 16, prochainement à Fonds Vert, puisqu'on a un territoire d'intervention qui, au départ, c'est la nouveauté. Au départ, était à la Busserine, mal passé, Gravitz Labro et Captain Jazz. Donc on sera l'année prochaine à la Castellane, quoi, à la rentrée à la Castellane. On sera à Riou, donc ça c'est pour le 16e arrondissement, Fontvert, donc toujours la Bussurine, Bussurine, Fontvert et Malpassé-Coro. Et là on prendra justement ancrage avec tous les acteurs pour leur proposer nos services, s'ils le souhaitent, pour leurs adhérents, qui passent par la prévention, l'accompagnement, soins et bien-être et tout ce qui a trait à la santé.
Et le projet Maison de Santé, il me semble aussi.
Alors, on a toujours deux projets de Maison de Santé. Un dans le 13e arrondissement, non loin du musée de la moto. Donc, il est en cours. C'est long, c'est des projets qui sont très, très compliqués. Alors, on est implanté dans des maisons de santé, celle du 15e à Consola-Mirabeau et Malpassé, la Maison régionale de santé de Malpassé. Et on a un bus de prévention qui existe. C'est oui, pas l'Arlésienne.
Je ne crois que ce que je vois. Je ne l'ai jamais vu.
Il a vu. Donc c'est un très beau bus qui a deux salles de consultation. Et ce bus a pour objectif de sillonner avec les différents acteurs du territoire et d'implanter des villages santé. Et je profite pour annoncer le 23 octobre, donc c'est la première semaine des vacances de la Toussaint. On avait programmé le 14 juin un village santé au Parc Biou qui a été annulé du fait des intempéries. Je croise les doigts. Il sera reporté. Et donc vous aurez des acteurs de la prévention, que sont l'espace santé, que sont la CPAM, que sont les différents médecins qui nous accompagnent, sport et santé, soins et bien-être, et on aura l'occasion de préciser tout ça.
Merci.
Merci pour votre
Alors, moi, la personne qui se trouve à ma droite, dont je tairai le nom, m'a marqué sur mon... La formation au premier secours, Yazid.
Alors, il y a des structures qui font de la formation au premier secours. Mais je pense que ta demande, c'était plutôt à la formation au défibrillateur, c'est ça ? Alors, premier secours, il y a quand même des structures qui sont agréées pour pouvoir le faire et qui le font mieux que nous, même si on est des professionnels de santé. Vaut mieux aller vers des gens qui tournent, mais on peut vous mettre en lien avec eux sans aucun problème. Et si tu le souhaites, on a une prochaine session et on a des places disponibles, puisque c'est des sessions de 10. Donc, si tu souhaites envoyer un de tes collaborateurs ou un de tes... ce jeudi,
paniquement Farid, mais voilà. Okay, donc... Okay. Deux places, parfait. Voilà. Donc vous n'avez rien entendu, il n'y a plus de place. Je vais maintenant laisser la parole à M. Saïd Ahmed de la CES. Ouais.
Merci.
Merci à vous.
Bonjour.
Merci à vous.
Moi je suis M. Ahmed Saïd. J'ai déjà dit que je suis M. Ahmed Saïd. Je suis là, dans notre association. Nous, l'objectif, c'est d'encadrer les enfants. Donc ce qui fait que les enfants, c'est surtout l'éducation. Donc, avec l'éducation, on fait des cours de l'aide aux devoirs. On a eu la chance d'être soutenu par le cours Galilée, l'association Cours Galilée. Donc, ça, c'est la base, c'est l'éducation des enfants. Et ainsi de suite, on fait du sport, parce qu'on sait très bien que là, pour que les enfants puissent bien apprendre, il faut aussi qu'ils se préoccupent aussi un peu de sport, comme il a dit le docteur. Et on organise aussi des sorties en famille. De temps en temps, on y va à la mer, au Grand Bleu. Donc avec
ça,
des
ça c'est dans le cadre des Olympiades. Vous avez
des
été
Olympiades,
sorties,
voilà, cadre des Olympiades. Cette année, on fait aussi du VTT. C'est surtout pendant les vacances. Nous, l'essentiel, c'est qu'on sait très bien que là, c'est pour compléter les centres, parce qu'on sait très bien qu'il y a l'Agora, il y a le centre social. Mais eux, ils ne peuvent pas tout faire. Il y a Maméga aussi. Mais nous, on essaie, chacun de nous doit essayer de donner un peu sa pierre pour que les enfants puissent aussi. Parce que là, n'oublie pas que là-bas, c'est le secteur le plus popularisé de Marseille, c'est le Grand Saint-Barthélemy. Donc, ce qui fait que là, nos structures, on est là pour compléter. On est là pour compléter les autres structures. Donc, cette année, on a eu la chance d'avoir aussi... à l'appui de la politique de la ville, c'est-à-dire le budget participatif. On a eu la chance d'avoir une formation des traiteurs que les femmes de Flamand et Le Mail ont bénéficié. On a eu 12 femmes qui ont bénéficié de cette formation des traiteurs. Et ça, c'est quelque chose qui convient aussi de pallier aux activités qu'on a déjà d'habitude, qu'on fait d'habitude. Et aussi, maintenant, on a eu la chance, l'appui aussi de la Banque alimentaire. Notre association, maintenant, on est partenaire des banques alimentaires. Donc, on distribue aussi des denrées alimentaires aux
plus démunis. Notre association elle est basée au Flamand. Donc, ce qui fait que là,
peut rappeler que vous avez déménagé, été contraint de déménager.
Oui,
vous êtes où exactement
ça.
Maintenant
Maintenant, on se trouve en haut du Flamand, là où il y a le petit centre, là, le centre social, aussi il y a le petit
l'arrêt des jeux. À proximité du centre social et près de l'arrêt.
Juste à côté du dentiste.
Près de chez le
dentiste aussi. Donc là, ces activités-là, ce sont des activités qu'on vient de développer dans notre local. Donc, c'est ça.
Merci, M. Ahmed Saïd. Et je vais revenir à Marion. Marion, toi, je pense que tous les trois autour de la table, vous participez aux Olympiades depuis la première édition, donc ça fait 3 ans. Est-ce que tu as l'impression que l'engouement pour les Olympiades s'est renforcé ou au contraire a diminué? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, la participation des...
Alors, déjà, en tant qu'association, on trouve que d'année en année, ça s'améliore. L'année dernière, il y a eu quand même moins de participation, on a trouvé sur les finales. Et cette année, alors peut-être aussi que les associations ont plus mobilisé, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on affine aussi les demandes et les besoins, et puis on les comprend mieux, on apprend tous à travailler ensemble. Mais c'est vrai que je trouve que cette année, nous par exemple, là on fait nos finales de handball aujourd'hui. Les enfants, il y en a, ils avaient rendez-vous à 8h45, ils étaient déjà au point de rendez-vous à 8h parce qu'ils attendaient que ça. Donc je pense qu'il y est. On a réussi à ramener des familles, c'est la première année aussi où on arrive à le faire. Donc je pense que c'est quand même un échappatoire pour les habitants. Et puis le lieu ici à l'école à deuxième chance, il est juste magnifique, quoi. Il y a plein d'espaces pour les...
Tu connais bien le lieu.
Oui, je connais très bien le lieu. On a notre centre aéré depuis 5 ans sur site. On connaît très bien les locaux. Et oui, du coup... Et nous, c'est la première année aussi où on participe aux Olympiades nautiques. C'est-à-dire, chaque fois... C'est vrai que j'ai expliqué à Brahim que pour nous, c'était compliqué parce qu'on est déjà au four et au moulin tout l'été. Et là, on a pris des animateurs qui faisaient exprès la mobilisation et qui ont fait le déplacement. Et le bilan, il est hyper positif. Même là, on voit, je pense que les sourires, de toute façon, des gens, et puis le plaisir aussi des associations de se retrouver sur une journée, je pense que c'est le meilleur bilan.
Ben merci, cette émission touche à la fin. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Je remercie les financeurs qui soutiennent les Échos du Grand Saint-Barthélemy depuis plus de 20 ans. On espère que ceux qui ont quitté, un petit peu déserté les lignes budgétaires pour les Échos reviendront, mais bon. Ah. Ouais, je lance une bouteille à la mer. Je remercie Farid qui est à la réalisation de cette émission. Je remercie également Sidi Diallo, notre fidèle technicien. Je dis notre, je me suis un petit peu approprié, tu vois, Sidi, bon, qui est technicien de Radio Galère. Hein, bon. Alors, ceci dit, on est avec toi tous les mois, au moins une fois. Donc tu nous appartiens un petit peu. Il y a mon frère qui veut dire une parole, donc je lui cède la parole.
Oui, merci. Alors, juste pour rappeler que la dernière émission des Échos du Grand Saint-Barthélemy, le thème qui sera abordé sera les 40 ans de la marche de 1983, spéciale 40 ans, marche 1983. Donc, nous vous invitons, nous vous convions à écouter cette émission. Il y a tout un programme qui a été établi et qui vous sera probablement présenté le dernier jeudi du mois, le 28. Merci Sidi, merci Lily de m'avoir accordé ce temps de parole.
Je tiens quand même à clôturer l'émission. Effectivement, la prochaine émission sera le 28 septembre avec pour thématique les 40 ans de la marche, avec la présentation du programme. Mais moi, je voulais simplement qu'on clôture sur un beau morceau de musique. Sidi, écoute-moi bien, c'est le morceau de Van Halen. C'est Marseille. j'imagine que vous êtes tous aussi déçus que moi d'avoir interrompu ce morceau-là de Van Halen. C'est simplement pour vous rappeler que cette émission sera rediffusée donc demain, samedi 2 septembre à 14h, toujours sur Radio Galère. Allez, bonne fin de journée à vous!